35 degrés, une humidité particulière, l'Amazone. Tout d'abord au XVIe siècle, juste après Aureliana, c'est-à-dire en suivant Aguirre, Lope de Aguirre, qui va faire le second voyage transcontinental à travers ces paysages extraordinaires. Et puis ensuite, nous irons retrouver le plus caïde des caoutchouciers. Un homme assez étrange que vous connaissez peut-être grâce au cinéma, Fitzgeraldo. Le soleil vient de se lever. Il est 6 heures, tout juste 6 heures du matin. Le paysage est inoubliable parce que c'est vrai qu'une étendue d'eau, avec au fond une brume, ou plutôt des rideaux de brume, qui bougent souvent en sens inverse de l'eau, parce que on ne sait pas qui bouge, si c'est le ciel, la brume, l'eau, un tronc qui passe, noir. Des bruits déjà, tout s'éveille. Les moustiques arrivent gentiment. Vous descendez sur la plage, une plage molle, une sorte de boue étrange. Et puis vous mettez le pied dans l'eau. Vous savez que vous avez la possibilité d'être piqué par l'aiguillon d'une raie parce qu'elle dort comme vous, en bordure des fleuves. L'eau est plus fraîche que vous le pensiez. La chaleur monte petit à petit. Les premiers rayons arrivent. Le soleil est là. Le soleil est encore ras. On remarque chaque arbre qui se détache, chaque liane du rivage. C'est une sorte de théâtre, avec toutes ces racines aériennes. Et puis il y a surtout ces flamboiements assez étranges des orchidées qui sont perchées sur ces mêmes arbres. Ah, l'éclair de Martin Pêcheur. Des vols de haras, des perroquets aux couleurs d'arc-en-ciel qui passent maintenant juste à travers l'air. Ils ont un cri rauque, c'est vrai, souvent. Ils sont silencieux le matin, c'est seulement lorsqu'ils rencontrent la lumière qu'ils commencent à crier. Et puis, hier j'ai aperçu sur une plage le premier caïman. Nous sommes sur le rio Ucayali. Nous allons suivre cette rivière pendant pratiquement toute notre émission parce que C'est là que nous allons revivre en compagnie de personnages assez étranges. Parce que nous avons déjà tenté de découvrir qui était Orellana, qui était le premier homme à avoir traversé véritablement l'Amazonie, le premier blanc bien sûr. Et aujourd'hui j'aimerais juste vous rappeler un peu cette seconde expédition, celle que nous connaissons peut-être un peu mieux à cause d'Aguirre ou La colère de Dieu, parce que ce film a pris en fait une double version des faits. C'est Pedro de Ursúa, un personnage assez simple qui a été élu pratiquement par le vice-roi du Pérou, gouverneur de l'Eldorado et d'Omagua. Omagua, c'est l'Amazonie, cette Amazonie qui a été découverte par Orellana et qui va carrément depuis l'embouchure du Napo en aval, et on peut redescendre ensuite tout l'Amazone. Et pour prendre possession véritablement de cet endroit, Pedro de Ursúa va partir de la côte du Pérou, c'est-à-dire du côté pacifique, depuis Trujillo, il va grimper les Andes, et il va être accompagné par deux hommes assez particuliers, je dirais même les plus particuliers qui aient traversé l'Amazone à cette époque, c'est Fernando de Guzmán et Lope de Aguirre. Lope de Aguirre, vous le connaissez déjà à cause de ce film, et Fernando de Guzmán, on le reconnaît également dans ce film d'Herzog, parce qu'à un moment donné, il va être élu roi du Pérou, prince et roi du Pérou, tout seul en pleine jungle. On va lui donner ce titre après la mort de Pedro de Ursúa. C'est aussi une chose qu'on a peine à saisir. Les images d'Herzog les rendent peut-être bien. C'est le fait d'avoir été accompagné par des femmes, et plus particulièrement par la concubine du chef, cette concubine d'Ursúa qui s'appelait Inés de Atienzo, et qui va pratiquement faire tout ce voyage amazonien. Voyez-vous, imaginez-vous, mesdames, en robe longue, de velours, avec un décolleté, des longs cheveux, de la dentelle, une chaise à porteur, et replacez-vous dans cette jungle. Ça n'est pas l'enfer vert, attention. La jungle n'est pas si méchante que cela. Les animaux ne vous attaqueront jamais. De ma vie, j'ai bien dû voir 3 serpents en Amazonie. Il faut vraiment que le feu brûle tout pour que tout à coup, tout apparaisse. Mais les animaux fuient devant vous. Ils n'aiment pas votre odeur. Vous êtes l'étranger. Mais tout de même, une femme du XVIe siècle venue d'Espagne, vivant au Pérou, traversant gentiment l'Amazonie sur sa chaise à porteur, avec des centaines d'Indiens, effectivement des Indiens presque nus, avec leur haku qui leur peint le visage en rouge, leurs cheveux bien croûteux, de cette même pâte rouge qui sert à la fois d'aliment ou de condiment, mais surtout de colorant extraordinaire. Et puis, la jungle, c'est d'abord une ambiance, c'est d'abord un état de fait, plus qu'une menace. C'est la végétation qui vous fait peur, c'est l'eau, le climat, la chaleur, l'inconnu, le fait d'avancer et de ne pas savoir où vous allez. J'arrêterai un peu là cette histoire parce que il vous reste 6000 kilomètres à faire maintenant, avec ces gens-là, avec le reste de la troupe. Naturellement, notre roi, notre prince, va être assassiné par Aguirre, tout le monde le sait. Et puis il y aura cette grande descente où petit à petit, de bateau en bateau, de pirogue en pirogue, ils vont atteindre l'Atlantique. Ils vont se retrouver, eux, sur l'île de Margarita, toujours au Venezuela. Et là, ils vont semer la terreur. C'est étrange, ils viennent de faire 6000 kilomètres et ils sont encore capables de lutter contre les Espagnols qui sont restés fidèles à Philippe II. Et ceci jusqu'à la mort d'Aguirre, car il va être liquidé par ses derniers partisans, qui sont véritablement écœurés, on le serait à moins, de cette folie mégalomane. Puis un côté blasphématoire, il y a un côté sanguinaire chez cet homme. Le seul que je puisse reconnaître à travers l'histoire est beaucoup plus tardif, car si l'échec est absolu au XVIe siècle, je crois que si on veut trouver quelque chose d'aussi fou, quelqu'un d'aussi méchant peut-être, il faut remonter au XIXe, c'est-à-dire aller à la rencontre de Fitzgeraldo.
Thank you.
À midi, vous avez vu votre premier bouffet haut. Vous savez, ces dauphins, étranges dauphins, roses. Oui, une chair, une peau, une impression qui est encore plus humaine que chez les autres dauphins d'eau de mer, qui remonte ainsi petit à petit depuis l'estuaire et qu'on retrouve dans les premiers rapides. Et ce qui est curieux, c'est leur façon de s'exhiber devant vous. Je me rappelle comment ils le faisaient devant les femmes. Je vous assure qu'un dauphin fait la différence entre un homme et une femme. Ils aiment bien présenter aussi leur partie, comment dire, génitoire. Et c'est vrai qu'il y a un côté très taquin. Ils le font devant les Indiennes. On le voit très bien entre les sexes par rapport à une pirogue. Il y a quelque chose d'étrange dans ce ballet des dauphins qui viennent carrément se retourner devant vous et qui vous sourient. Vous avez déjà vu le sourire d'un dauphin. Et puis en fin de journée, le soleil commence à déborder sur l'avant-toit du bateau. On descend gentiment à la rencontre du fleuve. Ce qui est beau, c'est ce côté paillette. On a l'impression que tout devient incandescent. Si vous êtes à la proue, par exemple, si vous êtes assis comme cela, vous allez vous rendre compte que maintenant, vous êtes pratiquement en train de cuire. Et si je dis ça, c'est parce que le feu du ciel, c'est une chose, le soleil est terrible, mais c'est surtout la réverbération qui vous gêne maintenant. Elle vous oblige même à vous protéger avec un large chapeau. Vous êtes déjà un tout petit peu Fitzgeraldo. Vous allez commencer à vous habiller comme lui. Vous avez vraiment envie de porter son Panama. C'est une journée amazonienne. Vous vous êtes éveillé ce matin dans la rougeur. Et maintenant, la nuit descend. La pleine lune, plus exactement, commence déjà à émerger à l'horizon, juste au moment où le soleil descend dans les flots. Fitzgeraldo, c'est un nom qui est peut-être à la fin de liste des grands caïds du 19e, mais c'est quand même le plus fort de tous. Parce que aujourd'hui, quand on en parle en Amazonie, et surtout du côté péruvien, je crois que tout le monde, enfin tous les Blancs en tout cas, se rappellent de sa vie extraordinaire. Il pèse très lourd aussi dans le destin des Indiens. C'est vrai que les Indiens n'en parlent pas parce que ces Indiens ont disparu après Fitzgeraldo ou pendant la vie de Fitzgeraldo, lors de sa vie. Je crois que c'est un homme qui, dès le départ, était voué à être étrange. C'est un fils de marin, ça se comprend quand on va parcourir tous ces grands fleuves amazoniens. Un marin qui était certainement américain, on est plus ou moins sûr de ses origines, mais il est né, allez je vous donne la date, là je m'en rappelle, 1862. C'est simplement pour vous situer l'histoire, puisque tout va s'arrêter dans les années 1900. Et il est né au Pérou, et très jeune, il va vivre dans le Haut Marañón, c'est-à-dire cette partie la plus élevée de l'Amazone, celle qui est carrément contre les Andes. Et là, il va avoir une carrière d'aventurier, enfin de commerçant. Et il va, là je me rappelle d'un d'un drame qui s'est situé au début de sa vie. Il va recevoir un coup de couteau terrible dans le ventre au cours d'une rixe avec des flambeurs. Et là, il va être arrêté et il va être condamné à mort. Ça, c'est le début de Fitzgeraldo. Il est condamné à mort pour une chose assez étrange. On le prétend espion chilien. Nous sommes en pleine guerre du Pacifique, c'est une guerre qui était terrible entre ces pays d'Amérique latine. Et là, eh bien, il va finalement rencontrer un certain Père Carlos. Et je crois que si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment déterminant. Un seul exemple, il s'appelait Isaïsas, ou Isaías Fermín. Il va transformer son prénom et se faire appeler Carlos Fermín. C'est-à-dire qu'il va prendre le nom de ce prêtre et il va avoir des amitiés absolument légendaires avec tous les religieux catholiques. C'est-à-dire qu'il y a un côté mystique qui apparaît dans Fitzgeraldo maintenant. Et on voit, à partir des années 90, à partir de 1890, on voit tout à coup qu'il crée un mythe particulier dans cette zone de l'Amazone. C'est-à-dire qu'il se fait appeler le nouvel Amachengua. Qu'est-ce qu'un Amachengua en Amazone? Eh bien, c'est un peu la représentation de l'Inca. Et pas n'importe quel Inca. L'Inca Juan Santos, une sorte de révolutionnaire péruvien qui, comme toutes les révélations messianiques, surtout celles du 18e et du 19e, sont des révélations où l'Indien s'imagine que les quatre parties du monde vont se reformer, que le corps du dernier Inca, ses quatre membres vont se recoller à son tronc, c'est-à-dire reformer le centre et les quatre parties du monde. Eh bien, Fitzgeraldo va essayer de créer ce mythe, de le recréer et le faire croire à tous les Indiens qui vivent dans cette région de l'Amazone péruvienne. Alors, le plus étrange, c'est qu'à partir de là, il va maintenant réussir à s'allier avec les Campas, qui sont les habitants de la région, les Indiens de cette région, et ils vont petit à petit le prendre pour le fils du soleil. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ils disent que ce cauchero, c'est-à-dire ce chercheur de caoutchouc, ils disent qu'il est non seulement le fils du soleil, mais qu'il est véritablement sa représentation sur Terre. Alors, lui-même va jouer là-dessus. Petit à petit, il va envoyer des ladinos, c'est-à-dire des métis, des gens qui lui ressemblent un peu, ou lui-même, au pire, en s'habillant de sa façon étrange que je vous décrirai tout à l'heure, et il va carrément à 30, 40, 50 kilomètres, et il lance l'information de sa venue. Et immédiatement, les Indiens se regroupent. Et dès qu'il les a regroupés, il leur fait des cadeaux, mais il leur parle avec, enfin, une sorte de sermon, des paroles un peu séductrices, comme ça. Il les réduisait. Exactement l'idée espagnole, il les fixait dans des campements, exactement à l'endroit où il avait choisi, sur les rives des fleuves, et là, petit à petit, il allait créer des sortes de réservoirs de main-d'œuvre. Il allait avoir tous ces hommes à sa portée, comme justement pour s'occuper des récoltes de la gomme, pour devenir porteur des peones, et surtout pour cultiver les plantations. Et vous allez voir que toute la vie de Fitzgeraldo va se fixer autour de cette hantise, créer des petits campements pour avoir des fruits, des légumes, des choses à manger le long des fleuves, et que les hommes qui vivent dans ces campements puissent porter des marchandises, bien sûr, donner un coup de main, et vous verrez quel coup de main, et finalement, surtout, pouvoir couper du bois et faire des réserves de bois. Pourquoi ? Bien tout simplement, pour remplir les chaudières des vapeurs. Persuasion, par tromperie, il a pu disposer de la sorte d'un volume absolument inimaginable de main-d'œuvre, uniquement de la main-d'œuvre indigène. Et pratiquement toutes ces tribus qui vivaient le long de l'Ucayali, la partie centrale même de cette Ucayali, et tout le long de l'Urubamba, allez, je vais quand même vous le situer un tout petit peu, l'Urubamba, ben c'est la suite de Machu Picchu. Parce que c'est ce fleuve qui passe à Machu Picchu et qui petit à petit descend dans la jungle et qui enfin rejoint l'Ucayali. Et à partir de là, bah, bien sûr, l'Amazone, ne vous inquiétez pas, c'est un véritable ensemble, une sorte de réseau de fleuves qui descendent tous vers l'Amazone. Mais pour nous, c'est important parce que notre Fitzgeraldo, il est maintenant cacique de ce grand fleuve. Bah, c'est un bandit, en fait. C'est un bandit de grand chemin. Et la seule chose qui manquait maintenant à Fitzgeraldo, c'était de consolider une sorte d'empire qu'il est en train de se créer là sous le soleil de l'Amazone. Et il voulait se tailler une place dans une ville bien particulière, Iquitos. Iquitos, c'est le centre économique de cette Amazonie péruvienne. Et là, malin, il va trouver une femme, Aurora, et il va l'épouser. C'était la fille d'un colonel qui était veuve et qui s'était remariée avec un marchand extrêmement prospère d'Iquitos, qui s'appelait Manuel Cardoso. Je vous raconte cela parce que, immédiatement, son beau-père va devenir son associé, vous l'avez compris. Donc maintenant, il a un pied à Iquitos. Alors, voyez le personnage. Là, vous êtes sur le quai, ce quai en bois d'Iquitos de l'époque. Vous avez un homme un peu distant, courtois, c'est vrai, avec un petit rien d'aristocrate. Quelqu'un qui... Bon, il est toujours impeccablement vêtu. Et ça, je crois que c'est la chose qui marque lorsque, même quand on voit le film d'Herzog, puisqu'on est encore dans la même veine, dans ce film, il l'a vêtu en blanc. Normalement, c'est un complet de fil qu'il faisait importer d'Angleterre. Il était coiffé d'un chapeau de Panama. Attention, Panama, ça n'est pas rien. Ce sont des chapeaux qu'ils ont faits en Équateur, et parce que les deux pays étaient liés à l'époque. Et c'est une paille extrêmement fine, extrêmement chère. C'est véritablement un gentleman. Et il a des papiers, oui. Bon, il se prétend chilien par ses papiers, mais en même temps argentin. Des fois, il dit qu'il est américain, ce qui est beaucoup plus vrai. Puis quand il le faut, bah, il dit aussi qu'il est péruvien. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va absolument utiliser tous les moyens. Mais le meilleur, ce qui pour moi ressort véritablement de la vie de Fitzgeraldo, bon, c'est pas tellement sa puissance, mais c'est surtout cette façon qu'il a eue de s'approprier la découverte de cette liaison terrestre assez étrange entre les bassins de l'Ucayali et le Madre de Dios. Ça ne vous dit rien peut-être, mais retrouver une voie qu'on appelle encore aujourd'hui l'isthme de Fitzgeraldo. C'est extraordinaire parce que ça, c'est la véritable aventure. L'aventure d'un bateau qui se met à marcher. voyagea sur un bateau avec sa grande roue à aubes, avec ses chaudières surchauffées. Ça, ce sera pour la fin de notre histoire tout à l'heure. Mais pour comprendre véritablement les raisons et surtout l'importance de la découverte de Fitzgeraldo, il ne faut pas forcément prendre une carte de géographie et voir tous ces fleuves. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de naviguer. Certains montent, certains descendent. Il y a des bassins tout entiers. Et entre ces bassins, il y a bizarrement une région de collines basses qui sont des collines qui sont recouvertes avec cette forêt tropicale. C'est peut-être la zone la plus tropicale de l'Amazone, curieusement, dès qu'on grimpote sur ces premières collines andines. Et c'est là qu'on retrouve des vestiges de ce qui était, une ancienne cordillère qui a été totalement érodée, ce qui crée une sorte de séparation, une sorte de dodane, si vous voulez, qui sépare les eaux entre les bassins de ces différents fleuves. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ce qui est important, c'est que ce relief qui est peu accusé va permettre des trajets extrêmement curieux, c'est-à-dire une sorte de caprice de la nature qui va permettre aux fleuves de contourner ces collines, de se rapprocher les uns des autres. Et le fait extraordinaire, c'est qu'il y a certains fleuves immenses qui n'étaient qu'à quelques dizaines, quelques centaines de mètres l'un de l'autre, et qui se frottaient autour d'une colline, autour d'un reste de cordillère. Donc, pour passer d'une rivière, d'un fleuve à l'autre, la distance étant vraiment aussi étroite, étant si faible, et puis le terrain lui-même était en fait suffisamment praticable, ces collines n'étaient pas très hautes, donc il était possible de traîner une embarcation à sec d'un fleuve à l'autre. Ça, c'est l'idée de Fitzgeraldo. Et puis, ces endroits sont privilégiés, on les appelait depuis lors des varaderos, parce qu'il en existe plusieurs le long des fleuves. Alors il suffit de bien calculer son coût, de calculer les longueurs et de retrouver toutes ces facilités, tous ces usages variables. Et puis finalement, à partir de l'isthme de Fitzgeraldo, on va pouvoir relier deux rivières, et ça je vous donne les noms parce que ça a été tellement important à l'époque. C'est le Sehali, qui est un affluent du haut Michagua, au Kashpahali, là vous voyez que ce sont de beaux noms indiens, l'affluent du haut Manu. Et là, eh bien, on va mettre en communication les deux grands bassins, celui de l'Urubamba ou Ucayali et l'autre, Madre de Dios, Madeira. Donc, vous avez une sorte de choix qui se trouvait dans la tête de Fitzgeraldo. Il va se tromper, tant mieux. C'est-à-dire, soit Manaus, le Brésil, soit Iquitos, le Pérou. Si vous voulez, c'était l'invention de certains raccourcis. N'oubliez pas l'enjeu. Des tonnes, des dizaines de tonnes de caoutchouc. Et puis des bateaux capables de porter cette gomme. Alors, Manaus, c'est très très loin. Si tout à coup, vous qui vivez au sud, vous qui vivez dans cet Apurimac, dans cette zone de l'Ucayali, qui est déjà le roi de la région sur le plan économique, comme l'était Fitzgeraldo, si tout à coup vous pouviez passer au nord, eh bien, obligatoirement, vous seriez le plus riche de tout l'Amazone, parce que vous alliez reprendre au nord toute la puissance qui partait vers le Brésil. C'est ça, le véritable rêve de notre Fitzgeraldo. Mais comment le faire ? Sont les Indiens. C'est là où est la clé du mystère.
Thank you.
Tout est en place maintenant. Vous avez trouvé les Valaderos. Vous avez quelques vapeurs, des vivres, des dépôts de bois bien secs. Ce bois de Capirona, hein, le meilleur bois de chauffage de l'Amazonie, donc pour alimenter les chaudières de vos navires. Maintenant, vous pouvez partir vers le nord. Alors, on va choisir cette première découverte importante, cet isthme qui va s'appeler Fitzcarraldo. On va choisir le cours du Serjali parce que là, on est pratiquement sûr qu'on peut rejoindre d'un seul coup le Haut-Purus. Je vous embête peut-être avec quelques noms comme ça, mais c'est l'importance des négociations qui est là, parce que tous les caucheros envoyaient leur production directement à Manaus, et là, Fitzcarraldo se dit que si il n'avait aucun bateau, aucune embarcation de grand tonnage capable de réaliser une telle expédition, il fallait en tout cas prouver que c'était possible. C'est-à-dire qu'il fallait trouver quelque chose qui soit démontable, enfin un bateau qu'on puisse alléger au maximum et qu'on puisse même le tirer, le haler à sec sur une distance assez longue. Ça, il fallait que dès le départ, tout soit mis en place. Et c'est là qu'il va décider de retourner à Iquitos pour acheter cette embarcation, éventuellement même la faire aménager. Et il voulait exactement ce type de bateau léger. Et là, avant de partir, bon, il va prendre des dispositions extrêmement précises. Et ça, je crois que c'est là qu'on voit l'intelligence, l'idée un peu démoniaque de Fitzcarraldo. C'est-à-dire qu'avant de partir, il décide que l'expédition aura lieu l'année d'après. Donc, il met en place tout un tas d'avant-garde. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il va faire partir des Indiens. Il a toujours ses Indiens. N'oubliez pas qu'il est le vrai Messie, qu'il a réussi à créer une sorte d'immense territoire religieusement tenu, messianiquement tenu sous sa coupole. Et là, il va lancer tous ses Indiens pour cultiver le maïs, le manioc, des bananes, afin que l'expédition puisse passer et se nourrir. Et il y a de nouveaux problèmes du bois, bien sûr, et ils vont partir en avance, et ceci n'est pas du tout visible dans le film d'Herzog, ils vont déjà créer, si vous voulez, la piste sur laquelle la coque du bateau devrait être tirée et porter déjà certains éléments démontables, toutes les marchandises dont on avait besoin. Enfin, tout cela devait être tracé, devait être déboisé, devait être déblayé par cette main-d'œuvre indigène. C'est pratiquement une année de préparation avant d'arriver avec le bateau. Et à Iquitos, Fitzcarraldo, il va trouver exactement ce qu'il cherche. C'est un vapeur, un petit vapeur, qui s'appelle Contamana. Et c'est vrai que au début de juillet, je parle de la saison parce que c'est très important. Nous sommes au plus fort de la saison sèche. Hein? Alors, vous voyez cette machine. Bah, c'est une machine extraordinairement moderne. On est juste avant les années 1900. Au fond de l'Amazonie, avoir un vapeur, c'est déjà fou. Eh bien, elle crache son feu, elle souffle, et on remonte petit à petit le cours de la rivière. Et là, c'est le spectacle le plus incroyable, peut-être, que l'on puisse supposer. Imaginez, vous avez devant vous ce bateau. Peu de bruit. 200 embarcations autour, avec des rames. Montées par pratiquement un millier d'Indiens. Des piros, des campas, et une centaine de blancs. C'est un peu la... Moi, je me rappelle d'une vue très précise d'Apocalypse Now, où vous voyez tout à coup toutes ces pirogues qui entourent le personnage principal dans le fleuve. C'est cela qui tourne autour de Fitzcarraldo. Et ne croyez pas que les Indiens aient de la peine à suivre, pas du tout. Au contraire, c'est le vapeur qui a des problèmes. Les Indiens vont devoir systématiquement le porter, l'arracher aux arbres, aux branchages qui le bloquent, sur des bancs de sable. Je vous rappelle, le choix de Fitzcarraldo, partir en saison sèche, une aberration. Et là, ce vaisseau amiral, voyez-le maintenant, il est vraiment monté par notre seigneur féodal de Lucayali, c'est son nom véritable. Il voyageait vêtu comme un prince, et toutes ces pirogues qui sont un peu primitives, elles ne sont pas du tout à la traîne, je vous le dis, elles longent carrément les coques, enfin la coque du bateau. Et là, on s'imagine aussi cette force, cette habileté de tous ces Indiens qui essayent sans arrêt de dégager le Contamana. Vous voyez la scène, ces difficultés, ce fait de tirer, de pousser, de haler, de dégager, de remettre le bateau à flot, et tout cela jusqu'au traquenard suivant, c'est terrifiant, non? C'est vrai que ça a été un passage époustouflant. Mais pourquoi avoir choisi cette saison des eaux qui véritablement sont inutiles? C'est-à-dire qu'on n'a plus que des branchages, des pierres. Bah, c'est justement pour des problèmes de combustible. Un choix très particulier. Parce que si vous aviez fait ce voyage en saison des pluies, quand il était facile de voguer sur le fleuve, bah, jamais les chaudières n'auraient pu être remplies. Il n'y avait pas de trace de bois sec dans cette région. Alors, c'est pour cela qu'il a compensé ces difficultés, ces aléas du manque d'eau, par cette mobilisation d'une véritable armée. Parce que c'est vrai que ces Indiens, ils naviguaient vraiment autour, ils ont littéralement porté son navire d'un bassin à l'autre. Voyez la scène. On arrive enfin, au prix de 1000 efforts, exactement sur les lieux de notre varadero. Il n'y a pas de carte à l'époque, on ne sait même pas où l'on va. Et là, le Contamana, on va le démonter. On va enlever le plus de poids possible afin que la coque puisse être tirée à sec par deux équipages. Vous voyez tous ces Indiens, là le film le rend fantastiquement bien. C'est vrai, ces Indiens qui se relaient, qui totalement doivent le hisser. Il y a des Blancs aussi qui sont là pour diriger le tout. Mais c'est la description de l'époque, en disant que tous ces Indiens ont fait cela en poussant des cris de joie. C'est vraiment du messianisme, ils croyaient en leur dieu, en leur soleil revenu sur terre, ils faisaient un travail absolument fou, ce bateau avec de la vapeur, avec cette fumée, c'était quelque chose d'incroyable avec ce personnage toujours habillé, avec son chapeau, qui commandait tout cela. Et je crois que ce sont ces scènes qui sont intéressantes parce que vous allez voir que dès qu'on aura passé, dès qu'on va retomber dans l'autre bassin, tout va changer. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va franchir ce Valadero, il n'y aura plus question de sourire, non, il n'y aura plus d'aimables paroles comme Fitzgeraldo les donnait ou les offrait. C'est maintenant la guerre ouverte. On va déboucher véritablement sur un véritable génocide. Parce que nous allons assister maintenant à quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y avait rien de commun entre les Indiens de l'Ucayali qu'on vient de quitter et ceux qui partagent ce nouveau bassin. Toute cette salade selon laquelle, je sais pas, le grand Viracocha, le dieu blanc, le père Carlos Fitzgeraldo, second président du Pérou, comme il se faisait appeler, tout cela, ça tombe. Et les Indiens ne s'occupaient absolument pas de savoir s'il avait droit de trafiquer sur tous les fleuves du Pérou. C'était le droit qui s'était donné à partir des Indiens. Non, lorsque les Indiens le rencontrent, ils refusent tous les cadeaux. D'abord, ils parlent une autre langue, ce qui est très gênant. Et il y a une scène très belle. Fitzgeraldo est riche, donc il offre des cadeaux extraordinaires à tous ces Indiens. Ils se retirent et finalement, ils reviennent en renvoyant fièrement tous les présents. Si ce sont des bijoux, ils les posent à la pointe d'une flèche, par exemple. Ils se mettent face. Vous voyez, c'est ce conflit entre les deux tribus, parce qu'il y a bien sûr tous les autres Indiens qui sont aux pieds de Fitzgeraldo, et les autres qui reviennent tout nus avec leurs marchandises, avec leurs cadeaux, et qui les reposent devant la plage où le bateau vient d'être remonté. C'est une véritable guerre déclarée. Il va dépêcher en avant des lieutenants, il va reprendre toute une avant-garde, il va armer avec des fusils, bien sûr, ces Indiens, il va nettoyer le terrain de tout opposant éventuel, et il va surtout de nouveau demander qu'on prépare des vivres et qu'on prépare du bois. Donc c'est vraiment un génocide, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il va suivre maintenant un trajet auquel il ne s'attendait pas du tout. Au départ, on allait du sud au nord, donc on était bien. Puis tout à coup, comme toutes les rivières d'Amazon, n'oubliez pas que vous êtes en pleine jungle, elles sont capricieuses, on s'infléchit petit à petit sur l'est, et puis finalement on descend au sud-est. Alors là, plus personne n'y comprend rien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout, sur le Purus, qui était la rivière qu'on attendait, mais qu'on était en train de partir vers le Brésil, c'est-à-dire qu'on était en train de changer complètement de route. Alors on refaisait exactement ce qu'Aureliana ou Aguirre et la colère de Dieu, Lope de Aguirre, avaient fait 300 ou 350 années auparavant. C'est-à-dire qu'involontairement maintenant, ces Blancs, ils étaient montés sur un bateau complètement fou et ils fuyaient vers l'aval en conquérant complètement aveugle. Ils s'étaient trompés, ils ne savaient même pas où ils allaient. Ils n'avaient pas de carte au départ, ça n'était plus le fait de rejoindre deux bassins et de gagner un nouveau territoire, c'était de partir vers l'inconnu. Et ce qui est fou, c'est que finalement, au mois de septembre, vous voyez que ça a été long puisque nous sommes partis au mois de juillet, notre Contamana va accoster à la stupéfaction générale dans le port d'un mania bolivien du caoutchouc. Vous êtes chez Nicolas Suarez, à l'autre bout du monde. Vous êtes en face maintenant du colosse de Bolivie. Vous avez complètement changé de but. Ça n'est pas très important pour Fitzgeraldo. Il est malin. Bah, il se trouve en face de quelqu'un qui est souvent nu-pied, qui est habillé comme un débardeur, qui est un vrai colosse et qui sait commander, qui sait aller à Manaus et discuter avec les autres hommes du caoutchouc. Fitzgeraldo, en quelques heures, va lui vendre son bateau, qui va couler le jour suivant. Il était peut-être complètement pourri, ce serait bien une vente à la Fitzgeraldo. Mais ils vont petit à petit s'allier, pourquoi pas, nous sommes les meilleurs. Alors la décision est prise, une sorte de contrat entre les Boliviens et Fitzgeraldo. Tout le caoutchouc bolivien va maintenant transiter par l'isthme de Fitzgeraldo. C'est-à-dire que tout le caoutchouc va maintenant passer par là pour se vendre à Iquitos. Et de Iquitos, on viendrait vendre toutes les marchandises qui viendraient du Béni. C'est-à-dire qu'en fait, on allait créer quand même un fantastique contact. Ça, c'est l'idée de Fitzgeraldo. Mais vous n'avez déjà plus de bateau, il vient de couler. Donc, il faudra d'abord donner son nom et puis attendre, parce que c'est là que Fitzgeraldo veut vraiment créer sa fortune colossale, l'idée de l'isthme. Et pour cela, il lui faut du matériel neuf, du matériel approprié, solide, et il part avec sa famille et il va immédiatement en Angleterre. Et là, il commande, il fait mettre en chantier un vapeur conçu totalement par lui. Il va l'appeler Adolfito. C'est un très beau bateau et il le fait envoyer en pièces détachées jusqu'à Iquitos dès qu'il est achevé. Bon, en partant, enfin, avant de rentrer, il fait encore un petit détour avec ses enfants à Paris. Et là, il les établit, enfin, il les place dans les meilleures écoles. Je crois que son aîné doit avoir 6 ou 7 ans. Donc il veut leur donner une excellente éducation. Il est vraiment maintenant le roi de cette Amazone. Il a pris un pouvoir absolument incontesté et incontestable. Et ce qui se produit après, c'est que, je raccourcis peut-être un peu, puisque nous sommes déjà un peu à la fin de l'histoire, ce qui compte, c'est surtout son système d'alliance. Parce qu'il espère, il y a des problèmes politiques à l'époque aussi en Amérique latine, il espère pouvoir s'allier en fait contre Manaus. Aux dépens de Manaus, il veut créer une sorte de territoire autonome. Et il revient, enfin, vous voyez la scène, on est rentré d'Angleterre, l'Adolfito a été monté. C'est vrai que ça a été aussi impressionnant quand vous pensez qu'il faut retourner jusqu'à l'intérieur de cette jungle avec un vapeur. Et là, celui qui a été construit à Londres, vraiment sur les plans de son propriétaire, va remonter l'Ucayali et il va s'engager ensuite dans la rivière Urubamba. Je vous rappelle, l'Urubamba, c'est bien celle qui suit, qui descend depuis Machu Picchu, depuis la vallée sacrée, tout près de Cusco. C'est donc le fleuve par excellence. Et le 9 juillet, là je suis très précis, vous êtes en 1897, on arrive pratiquement au 20e siècle, ça a été un drame absolument stupide. Vous êtes sur ce bateau solide, malheureusement dans un passage difficile, mais après tout, pas plus périlleux que tous les autres qu'ils avaient déjà traversés, surtout pas pour des navigateurs amazoniens comme eux. Juste en face de Sepa, c'est une ville assez connue, un petit port très connu, à la suite d'une fausse manœuvre, c'est le pilote qui a dû faire une erreur bien sûr, l'Adolfito va s'écraser carrément sur un rocher et il coule d'un seul coup, paf, à pic. Et sur une plage en aval, on allait retrouver un peu plus tard le cadavre de Fitzgeraldo et de certains de ses nouveaux alliés du caoutchouc. C'est ainsi qu'est mort ce messie. Les disciples qu'il avait suivis pendant des années, tous ces Indiens, vont carrément disparaître. C'est ça qui est assez fou aussi, c'est la fin. Dès que le messie, dès que cet homme qui se prend pour Viracocha ou qui se prétend être Viracocha, le dieu solaire sur terre, meurt, se retrouve sur sa plage, tout s'évanouit. Et c'est vrai que c'est un chaos absolu qui s'installe dans ce royaume qu'il avait créé à la force du poignet, c'est vrai, avec intelligence, avec beaucoup de dureté, beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté. Parce qu'après tout, quand je vous ai parlé du génocide, ceci a transformé complètement une région. Mais si je parle ainsi du passé, c'est peut-être aussi pour concevoir qu'à l'aube du XXe siècle, on comprend peut-être mieux ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie. Comment, par petits coups de Fitzgeraldo, chacun est son propre Fitzgeraldo. L'Amazonie doit bien se tenir. Cruauté pour cruauté, la semaine prochaine, je vous inviterai à un long cours tout à fait spécial. Nous allons refaire ensemble la conquête du Mexique. Nous allons partir du port de Veracruz et nous allons terminer sur les volcans de la Nahuac en face de Mexico. Une conquête comme vous n'en avez jamais entendu peut-être, une façon de voir la chose un peu nouvelle. Après tout, on avance aussi dans les lectures et dans les études. 1492-1992, ah, on s'intéresse tout à coup à cette époque. Et la lumière d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a quelques années. Au Mexique.